22h, le journal, c'est maintenant Lénaïque Monnier.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal, des propositions et du mécontentement. Lancement aujourd'hui du Grenelle contre les violences conjugales. Nous verrons que les associations qui sont sur le terrain au quotidien ne sont pas convaincues, à l'image, écoutez-la, de Caroline Dehas.
Il y a plus de 100 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2020 pour faire des audits et 2021 pour mettre en place des mesures.
Deux nouvelles têtes au gouvernement, Jean-Paul Delevoye pour la réforme des retraites et Jean-Baptiste Djebbari en renfort au transport. On verra ce qui les attend dans un instant. Boris Johnson, de plus en plus isolé, il n'a plus la majorité au Parlement alors qu'il doit se battre, y compris contre son propre camp. Les explications dans ce journal. Et puis le coup de gueule d'un maire alors qu'un sportif anglais a laissé son appareil de muscu en haut du Mont Blanc sans pouvoir le descendre. À la fin de ce journal aussi, les prévisions météo complètes d'Anissa. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Gary Hansens, ex-patron de start-up désormais passé sous la houlette de Decathlon.
Europe 1.
Le Grenelle contre les violences conjugales, le gouvernement a donc présenté une série de mesures pour endiguer le fléau. Car chaque année, selon les chiffres officiels, 230 000 femmes en sont victimes. Et rien que depuis le début de l'année, on déplore la mort de 100 femmes. Nous sommes avec vous, Ève Roger, pour Europe 1. L'une des premières mesures annoncées cet après-midi, c'est l'augmentation du nombre de places d'hébergement d'urgence.
Oui, il existe aujourd'hui 5000 places d'hébergement d'urgence, en voilà 1000 de plus, mais pas spécifiquement pour des femmes victimes de violences conjugales, regrettent déjà les associations, car elles pourraient y côtoyer des SDF par exemple. Le Premier ministre a aussi promis la généralisation des dépôts de plaintes dans les hôpitaux et l'amélioration de l'accueil par les policiers et les gendarmes grâce à un audit mené l'année prochaine dans 400 commissariats en France. Du progrès aussi du côté de la justice, Édouard Philippe a annoncé qu'il y aurait des procureurs spécialisés dans tous les tribunaux de France et dans certains comme à Créteil. De nouvelles chambres dites d'urgence pourront accélérer la procédure. La justice pourrait agir dans les 15 jours, a-t-il promis. Et puis pour éloigner les conjoints violents, le Premier ministre a promis la généralisation du fameux bracelet électronique qui alerte la police quand il se rapproche trop de son ex-compagne. Ce bracelet, dès qu'il a été condamné pour violence conjugale, mais aussi quand la femme, par exemple, a fait l'objet d'une ordonnance de protection, il pourrait être posé dans les 48 heures. Et puis une annonce très attendue par les associations, un homme qui a tué son ex-compagne perdra immédiatement son autorité parentale sur ses enfants, ce qui n'est étonnamment pas le cas aujourd'hui.
Merci Ève Roger pour Europe 1 pour ces précisions. Alors ces annonces sont-elles de nature à satisfaire les associations qui aident ces femmes violentées? Eh bien pas forcément. Écoutez Caroline Dehas, porte-parole du collectif Nous Toutes.
On est venu, on a vu, on est hyper déçu. On ne peut pas éduquer l'ensemble des enfants de ce pays à la non-violence. On ne peut pas créer le nombre de places d'hébergement spécialisées nécessaire. On ne peut pas former l'ensemble des professionnels sans des moyens. Et aujourd'hui, il n'y a pas de moyens annoncés. Donc franchement, les annonces, elles sont décevantes. On espère que c'était simplement les annonces du lancement. Et on se dit peut-être qu'ils vont réussir à se rattraper dans les semaines qui viennent. Mais il y a plus de 100 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2020 pour faire des audits et 2021 pour mettre en place des mesures. Pourquoi on a besoin d'un audit pour savoir qu'il y a des problèmes en commissariat et gendarmerie? On sait qu'il y a des problèmes. Il faut former les professionnels.
Caroline Dehas pour Europe 1 et le message des familles d'ailleurs est ce soir très clair, il faut agir vite et former ces policiers justement chargés de recueillir les plaintes des femmes battues. Alors qu'on a appris ce soir que l'homme qui a tué sa compagne à Cagnes-sur-Mer a été mis en examen et écroué, une femme de 21 ans avait été retrouvée samedi sous les ordures dans une impasse battue à mort. Il avait dans un premier temps nié les faits. Le gouvernement va s'étoffer, confirmation ce soir de l'Élysée, Jean-Paul Delevoye arrive, pas comme ministre, mais en tant que haut-commissaire. Michaël Darmon, vous nous avez rejoint, éditorialiste politique d'Europe 1. C'est donc lui qui sera chargé de mener l'épineuse réforme des retraites.
Vous l'avez dit, Jean-Paul Delevoye est donc l'homme de la négociation, de la concertation, qui était jusqu'à présent à l'extérieur du gouvernement en tant que secrétaire consacré donc aux retraites. Il a piloté, organisé, structuré toute cette réforme et maintenant il va effectivement porter la concertation, la négociation et la pédagogie à l'intérieur donc du gouvernement. Il siégera au Conseil des ministres, il aura aussi donc des moyens, une autre voie également, une forme d'autorité nouvelle et permettra également de soulager Agnès Buzyn qui aussi a fort affaire avec les urgences et d'autres sujets.
Alors le texte devrait arriver devant le Parlement donc début 2020, on l'a dit. Autre entrée au gouvernement, celle de Jean-Baptiste Djebbari. Lui devrait épauler Elisabeth Borne au ministère des Transports.
Oui, un jeune macroniste, député macroniste de la Vienne. Alors, on peut considérer qu'effectivement, l'affectation tombe bien parce qu'il est pilote professionnel de ligne. Il s'occupe des transports beaucoup donc, à l'Assemblée nationale. Il a été très présent sur toute la réforme de la SNCF. Il vient également d'une région du Limousin, dans la Vienne, enclavée, qui également a beaucoup d'enjeux de ce point de vue-là. C'est un signal donné à la majorité. Le président de la République avait parlé de réaménagement pour aider des ministres et non pas de remaniement. Il passe à l'acte.
Merci Mickaël Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1. 5800 suppressions d'emplois à Bercy de 2020 à 2022. Annonce faite ce soir par Gérald Darmanin avec le prélèvement à la source ou encore la suppression de petites taxes. Les besoins en personnel désormais sont moindres à Bercy. On en vient à présent à ces polluants que nous transportons tous dans notre corps sans même que l'on s'en aperçoive. Notre organisme est rempli de ces substances. Virginie Samen, vous êtes spécialiste environnement pour Europe 1. Cette étude, publiée ce matin par Santé publique France, du parabène, des phtalates ou encore des tas de petites choses se baladent en nous. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Et surtout, est-ce que c'est dangereux?
Alors, c'est par exemple ce qu'on appelle des retardateurs de flammes bromées. Donc, ce sont des produits chimiques qu'on retrouve par exemple dans les textiles des canapés, des sièges de voiture. Ça sert à les rendre moins inflammables au départ. Autre polluant du quotidien, les composés perfluorés. Ceux-là, on les retrouve dans le revêtement des poêles en téflon, mais aussi dans le plastique des téléviseurs ou encore, vous savez, dans les sachets de maïs qu'on fait exploser au micro-ondes. Et puis, il y a les phtalates dans le plastique de certains jouets d'enfants, les bisphénols et les parabènes dans les cosmétiques. Ce qui est primordial dans cette étude, c'est qu'elle montre que ces polluants sont présents dans l'organisme de tous les enfants et les adultes testés. 1000 enfants et 2500 adultes, ce sont les enfants qui présentent les plus forts taux de ces substances. Alors, on n'a aucune certitude, mais c'est probablement parce qu'ils mettent plus de plastique à la bouche d'abord, et puis proportionnellement à la taille de leur corps, ces substances ont plus d'impact. Alors, pour essayer de limiter l'exposition des Français à ces polluants, le gouvernement lance une campagne d'information, notamment à destination des femmes enceintes et des bébés. Vous pouvez aller voir dès maintenant sur le site internet Agir pour bébé qui vient tout juste d'être mise en ligne avec des conseils pour limiter ces polluants chez soi.
Merci Virginie Salmen, spécialiste environnement pour Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Lénaïque Monnier.
Direction Strasbourg à présent, où l'enquête avance après le terrible incendie de la nuit dernière à Schiltigheim. Un enfant de 11 ans est mort. Plusieurs membres de sa famille sont blessés. Arthur Elmbaché, vous êtes à Strasbourg ce soir pour Europe 1. Un premier suspect, interpellé au moment du sinistre, a passé une partie de la journée en garde à vue, mais il a été mis hors de cause. En revanche, un autre homme a bien été interpellé.
Oui, un jeune homme de 22 ans que les policiers ici connaissent malheureusement très bien pour des affaires de violence notamment. Il a été interpellé vers 10h30 ce matin et il a toutes les chances d'être cette silhouette avec capuche sur la tête qui apparaît sur les images des 4 caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans la cour de l'immeuble qui a pris feu. Le responsable du bailleur social, Pierre Staub, les a vues, ces images.
C'est un incendie criminel, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y avait des allées-venues dans le laps de temps où nous pensons que l'incendie a été produit. On voit peu le visage, mais comme il y a 4 caméras, on voit quand même des choses.
Alors selon nos informations, il n'y aurait pas de motivation raciste derrière cet incendie. La question se posait puisque les victimes, c'est une famille qui vient de Centrafrique et qu'il y a eu une série d'incendies ici depuis 2 semaines avec plusieurs fois des victimes d'origine étrangère et même une revendication clairement raciste pour le coup taguée sur une mairie. En fait, pour l'incendie de la nuit dernière, apparemment le suspect avait bu beaucoup. Les policiers le connaissent aussi pour ça d'ailleurs. Et au milieu de la nuit, il se balade, il a un briquet, il brûle une première poubelle, il allume, dit-on, ce qu'il trouve jusqu'à ce feu fatal dans cet immeuble de la rue principale. Alors, est-ce que c'est lui qui est responsable de la série d'incendies ici depuis 15 jours? Trop tôt pour le dire, les enquêteurs travaillent évidemment là-dessus.
Merci Arthur Elmbaché depuis Strasbourg ce soir pour Europe 1. Une institutrice condamnée à 6 mois de prison ferme aujourd'hui, condamnée pour violence volontaire sur un enfant de 4 ans. Cette enseignante de Thonon-les-Bains était accusée d'avoir allongé un enfant par terre et lui avoir cogné la tête au sol. Elle n'aura pas le droit d'exercer son métier pendant 5 ans. Direction Londres à présent, où Boris Johnson a perdu la majorité absolue au Parlement. Ça ne tenait qu'à une voix. Un député a rallié le parti libéral-démocrate en plein débat au Parlement. Pierre Herbulo, bonsoir. Vous êtes à Londres justement ce soir pour Europe 1. Ça discute ferme en ce moment au Parlement. Des discussions tendues depuis 2 heures environ et qui vont sans doute encore durer.
Oui, bonsoir Lénaïque. Oui, c'est le protocole, ce débat d'urgence réclamé par les députés d'opposition et accepté par le président de la Chambre des communes doit durer précisément 3 heures. Un débat absolument capital dans ce feuilleton du Brexit, puisqu'ensuite, les députés vont devoir voter pour ou contre la création d'une loi pour repousser une nouvelle fois ce départ de l'Union européenne. On parle pour l'instant d'un délai de 3 mois supplémentaires. En ouverture de séance cet après-midi, le Premier ministre Boris Johnson a très vivement critiqué cette initiative.
Je n'abandonnerai jamais le contrôle de nos négociations comme le demandent les leaders de l'opposition. Nous avons promis à nos citoyens que nous ferions le Brexit. Nous avons promis de respecter le résultat du référendum et nous devons le faire maintenant. Trop, c'est trop. Il n'y aura pas encore une fois de report inutile du Brexit.
On devrait être fixé dans l'heure, mais ce nouveau report a pourtant toutes les chances de voir le jour. Le gouvernement, vous le disiez, a perdu sa majorité au Parlement tout à l'heure. Le député Philippe Lee a quitté les bancs des conservateurs pour rejoindre celui des libéraux-démocrates. Il faut rajouter à cela une vingtaine de parlementaires frondeurs qui pourraient se laisser tenter. Si ce scénario voit bien le jour, la riposte de Boris Johnson est déjà connue. Il déposera une motion demain pour dissoudre le Parlement et organiser de nouvelles élections.
Merci Pierre Herbulot en direct de Londres ce soir pour Europe 1. Au Yémen, l'ONU déplore une multitude de crimes de guerre depuis le début du conflit. Personne n'a les mains propres, estiment les experts internationaux. Tortures, viols, détentions arbitraires sont légion depuis le début de la guerre qui ravage le pays depuis 2014. Cette histoire, à présent, cocasse sur le coup, mais finalement pas tellement. Ça se passe au pied du Mont Blanc, à Saint-Gervais. Voici un maire très en colère, car depuis un certain temps, les incivilités se multiplient au pied du géant. Le dernier en date est un alpiniste britannique qui a eu l'idée saugrenue de grimper avec sa machine de muscu, son rameur, pour s'offrir une petite séance en altitude. Sauf que voilà, impossible pour lui de redescendre ensuite, d'où ce coup de gueule de Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais.
On en a assez d'avoir des hurluberlus de ce type-là qui font n'importe quoi. Le Mont-Blanc, ça fait briller la France, ça fait briller l'Europe. Et le Mont-Blanc, c'est une affaire uniquement d'alpinisme. Mais c'est aujourd'hui une poubelle et c'est le lieu où on y fait n'importe quelle incivilité. Aujourd'hui, le Mont-Blanc est un site classé, c'est-à-dire c'est protégé par la réglementation du site classé, c'est-à-dire protégé par rien. On n'a aucun moyen d'empêcher quelqu'un de monter avec une otarie sur le Mont-Blanc pour y faire une démonstration de jonglage et de ballon. Donc, je demande au président de la République de choisir. Soit on supprime la protection du Mont-Blanc et ce n'est plus un site classé et on y fait n'importe quoi. Soit on écrit tout simplement que le Mont-Blanc est réservé à partir d'une certaine altitude à l'activité d'alpinisme et c'est tout.
Jean-Marc Pélex, le maire de Saint-Gervais, au micro Europe 1 de Caroline Baudry. Il a d'ailleurs écrit ce maire au président de la République. Peut-on voler du street art? Un pochoir de Banksy a été dérobé dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, près de Beaubourg. Le graffiti représentait un rat, symbole des graffeurs. Une enquête est ouverte ce soir. Les œuvres de Banksy sont très recherchées. La porte du Bataclan sur laquelle il avait dessiné avait d'ailleurs été découpée en janvier dernier. Et puis c'est l'expo qui cartonne depuis le printemps, l'expo Toutankhamon et ses quelques 150 objets sortis de son tombeau. 1 300 000 personnes s'y sont pressées. Des visiteurs, vous allez l'entendre, absolument enchantés.
Toutankhamon, c'est magique, c'est la découverte. Le travail des sculptures, de l'or, des pierres.
Quand on se dit qu'ils avaient cette culture en 1300 avant Jésus-Christ, on se dit quelque part qu'on n'a rien inventé. Et comment en plus ils ont influencé notre culture également, je trouve ça incroyable.
Quand on regarde aujourd'hui la crosse qu'on retrouve dans l'église catholique, c'est plutôt bien expliqué pour quelqu'un de novice comme moi. Donc les bijoux qui étaient sur le tombeau, c'est quelque chose qui nous a marqué, on s'est arrêté assez longtemps dessus.
Qu'est-ce qu'ils ont spécifique ces bijoux?
Le fait que ce soit les bijoux qui étaient directement sur le corps, nous, ça nous a marqué.
On vient de la région Lorraine. Pour nous, c'était l'occasion d'aller sur Paris et puis de voir Toutankhamon.
À quelques jours, finalement, de la fin, les enfants sont rentrés à l'école. Donc, place nette pour les adultes.
Et propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois, l'expo a encore lieu jusqu'au 23 septembre prochain. Pas de prix après la polémique. Yann Moix lui a été écarté de la liste du Goncourt. En revanche, Amélie Nothomb s'y trouve pour son roman Soif. Le Goncourt sera remis le 4 novembre prochain. 15 livres sont en lice pour l'obtenir. Un mot de l'actualité sportive, le mondial de basket avec cette victoire haut la main de l'équipe de France. Les Bleus ont battu la Jordanie 103 à 64. Les Bleus joueront la première place de leur groupe dans le dernier match du premier tour. Ce sera jeudi contre la République dominicaine. Et puis finalement, c'est oui, Valentin Rongier est désormais marseillais. Son départ de Nantes a été validé. Il sera transféré à l'OM sous forme de prêt. Les papiers sont signés. Le montant du transfert est estimé à 13 millions. millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Et puis le tennis, enfin avec l'US Open. Cette nuit, Federer affronte Dimitrov et Wawrinka rencontre Medvedev. Ils jouent tous pour une place en demi-finale. Un œil à présent sur la météo, sur le ciel. Il a fait très beau aujourd'hui, mais Anissa, manifestement, ça y est, c'est terminé. On va ressortir, non pas les bonnets, mais au moins les kawaii.
Oui, c'est vrai, Lénaïque, qu'on a vécu une belle journée aujourd'hui. Eh bien, demain, le temps change avec le passage d'une petite perturbation qui arrive par l'ouest. Demain matin, sur le nord, les côtes de la Manche et la Bretagne, là, la journée débute sous la pluie avec un ciel très nuageux et même des rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. À l'avant de cette perturbation, sur tout le reste du pays, le soleil brille. Au fil des heures, le beau temps revient à l'ouest et les nuages se déplacent vers l'est et apportent donc la pluie sur le bassin parisien, la Sarthe, la Mayenne et les Pays de la Loire. Les températures, elles sont toujours fraîches, même voire froides le matin dans la moitié nord avec seulement 6 à 10 degrés. Demain après-midi, il va faire bon et chaud même. 24 à Paris, 29 à Clermont-Ferrand, 31 degrés à Marseille et jusqu'à 34 à Nîmes.
Et c'était la météo signée Anissa sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Gary Hansen qui vient de céder sa start-up à Decathlon. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 22h17 sur Europe 1, vous êtes avec nous chaque soir et on va s'intéresser comme tous les jours à la bourse avec vous Didier Hamot de boursier.com. Daniel, Wall Street a repris ses cotisations après une pause de 3 jours.
Oui, alors ça repart plutôt en baisse, même en nette baisse après une pause effectivement de 3 jours en raison de la fête du travail, c'était hier aux États-Unis. Le Dow Jones accuse le coup ce soir, moins 1,08%, 26 118 points, donc une nette baisse aussi du Nasdaq d'ailleurs, qui chute d'1,11%, 7 874 points. La situation commerciale entre Américains et Chinois continue de chahuter les marchés. Donald Trump recommande à Pékin de ne pas jouer la montre dans les négociations, alors que la Chine a porté plainte contre les États-Unis devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour des tarifs douaniers jugés indus. La situation donc dégénère sur les valeurs exportatrices, les valeurs en particulier technologiques. Apple cède 1,5%, Facebook moins 1,7%, Microsoft moins 1,3%, Cisco perd 0,6%. Il y a quand même Amazon qui s'en sort, plus 0,7%. Le pétrole aussi accuse le coup, moins 3,5%. Ça donne un baril de retour à 53$, le WTI. Et puis l'euro, comme toujours, sous les indices, on est à 1,0965 face au dollar.
Et Didier, à Paris aussi, le CAC 40 a reperdu du terrain.
Oui, du coup, ça a baissé. Alors, moins nettement qu'à Wall Street. Ça a d'ailleurs accéléré dans la soirée à Wall Street. La Bourse de Paris a limité ses pertes à 0,49%, 5 466 points, plombés par la situation commerciale internationale. Et aussi par le Brexit, avec la question lancinante peut-être des élections outre-Manche. Les valeurs exportatrices du coup ont reculé. LVMH, moins 2%. Kering, moins 1,7%. Là, on est dans le luxe. Aux industriels, Air Liquide cède 1,6%. Safran, moins 1,5% avec Schneider. Et STM, moins 1,4%. Il y a une baisse très nette du côté des télécoms. C'est Iliad. La maison mère de Free abandonne plus de 6%, 6,3%. Après des comptes semestriels plombés par le développement du groupe en Italie, le résultat d'exploitation a reculé de 7,4% chez Iliad.
Alors Didier, il y a une exception tout de même aujourd'hui, c'est Sanofi qui a nettement progressé.
Quand même, oui, plus 1,9%, 81 euros Sanofi, aidé par le broker Bernstein qui conseille le groupe pharmaceutique à l'achat en visant un cours de 95 euros en estimant le dossier toujours décoté. Sur les autres places financières, ça baisse de 0,3% sur le DAX à Francfort, moins 0,3% aussi à Bruxelles, moins 0,07% à Madrid, moins 0,25% à Milan, moins 0,20% à Londres et on rappelle le CAC 40 en baisse de 0,49%, 5 466 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de boursier.com. Vous êtes toujours sur Europe 1 et c'est l'heure de l'invité écho. Emmanuel Duteil, ce soir vous recevez Gary Hansen. Il est fondateur de Alltrix, ex-startup désormais passé sous la coupe de Decathlon.
Bonsoir Gary Hansen.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Alltrix. C'est une plateforme de vente sur Internet de vélos et de matériel pour cyclistes. Vous êtes leader sur ce marché du e-commerce. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est tout simple, c'est que vous venez en grande partie de vous vendre à Decathlon. Pourquoi on se vend comme ça à Decathlon quand on est une start-up hyper prometteuse ?
C'est très sympa d'entendre le terme start-up avant toute chose parce que c'est une histoire qui a déjà 11 ans. Donc c'est vrai que dans l'esprit, l'ADN, on reste une start-up, mais on a bien grandi. On est 130 collaborateurs aujourd'hui. On a réalisé un peu plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement une croissance qui est assez généreuse et des besoins structurels qui sont assez importants. Et à un moment, on se pose la question de savoir s'il n'est pas judicieux de se rapprocher, de s'adosser à un acteur industriel, stratégique, pour pérenniser la croissance et continuer de l'accompagner.
Voilà, donc pour continuer d'accélérer, puisque Decathlon, c'est le numéro un mondial pour la production et la distribution d'articles de sport, un groupe bien évidemment très présent sur le vélo, avec jusque-là ses marques à Louis, dont principalement Between. Qu'est-ce que vous allez malgré tout leur apporter, vous, à Decathlon ?
Alors c'est difficile de parler pour eux, mais bon, des discussions qu'on a pu avoir, ce qui les intéresse chez nous, c'est le côté effectivement très digital. Decathlon est une marque formidable sur le retail, la présence physique, les magasins. Nous, c'est complètement l'inverse. On a très peu de boutiques. En l'occurrence, on a ouvert notre première boutique il y a 3 ans. On est ce qu'on appelle un pure player. On part des racines du digital pour servir un utilisateur aux 4 coins de la France et bien plus loin parce qu'on dessert 70 pays depuis un même point. Donc en l'occurrence, la région parisienne, nous sommes installés depuis nos débuts. Et donc, on a des cultures assez différentes. Et je pense que d'un côté, on va apporter effectivement toute cette culture digitale à Decathlon. Et à l'inverse, Decathlon nous apportera tout son savoir sur la partie retail et magasins.
Alors moi, pour être très honnête, je ne vous connaissais pas très bien avant d'apprendre ce matin que Decathlon vous rachetait. Je suis donc allé regarder votre plateforme. Il n'y a pas encore les marques Decathlon sur votre plateforme à vendre pour les vélos. Ça va être bientôt le cas ?
Alors c'est une opportunité qui va se présenter évidemment. À ce stade, on est encore en discussion par rapport à ça. Le point de départ de tout ça, c'est l'utilisateur et ce que nos utilisateurs attendent. Les différences qu'on a aussi avec Decathlon, c'est que Decathlon est une marque formidable pour rendre le sport accessible au plus grand nombre. Mmh. On est évidemment dans cette démarche-là aussi, mais avec un positionnement beaucoup plus spécialiste, plus haut de gamme.
Et c'est en cela où vous êtes complémentaire. Vous allez apporter à Decathlon des sportifs qui sont peut-être plus exigeants, qui sont plus pointus sur la technique.
Exactement.
Et qui jusque-là n'allaient pas chez Decathlon.
Voilà.
Donc c'est complémentaire.
Mais Decathlon a aussi des produits haut de gamme, et notamment de nouvelles marques comme Van Rysel dans le vélo, pour parler du domaine sur lequel on évolue, qui est assez pointu. Donc à partir du moment, et j'ai peu de doutes par rapport à ça, notre utilisateur serait en demande de ce genre de produit, cette marque. Je pense que ça ferait du sens, effectivement, de la proposer sur Alltrix.
Oui, donc on est bien d'accord que progressivement, on va trouver les produits fabriqués, les marques Decathlon, sur votre plateforme. C'est malgré tout le but.
On a balayé un bon nombre de pistes. Effectivement, celle-ci en fait partie.
Vous aviez commencé à développer un tout petit réseau de boutiques. Comme vous le disiez, votre première boutique a ouvert il y a de cela 3 ans. Est-ce que du coup, vous allez arrêter et on va vous retrouver chez Decathlon ? Ou au contraire, le fait que Decathlon vous apporte un petit peu de sous, ça va vous permettre de développer plus vite votre propre réseau de boutiques ?
On a ouvert une première boutique à 3 ans, puis une seconde, troisième avec un franchisé. On a une capacité d'exécution qui n'est certainement pas celle de Decathlon. Et évidemment, le fait d'avoir un nouvel associé maintenant qui dispose de 315 points de vente, ça crée de nombreuses opportunités.
Dont de trouver des corners chez Decathlon.
À nous de voir maintenant dans quel point de vente ça
donc,
pourra faire.
Pourquoi pas des corners
sens. Et pourquoi pas effectivement.
Et ce qui est certain, c'est qu'on ira chercher vos produits chez Decathlon. Là, ça paraît quand même logique.
Bah, c'est un carrefour d'audience pour les sportifs, donc a priori, on devrait y trouver notre clientèle aussi.
Plus globalement, le marché du vélo cette fois, puisque si Decathlon s'intéresse à vous, c'est que c'est un marché qui bondit fortement. On a vu là que les audiences télé, par exemple, pour le Tour de France, ont été exceptionnelles. Est-ce qu'il y a un effet mécanique, Tour de France, Français qui font des performances exceptionnelles, on achète un vélo ?
Alors, on ne le ressent pas de manière aussi courte dans le temps. Je sais qu'entre Roland-Garros et sur les antennes, beaucoup de gens font du tennis et réservent des cours de tennis. Je pense que sur le vélo, il y a un effet, il y a moins d'immédiateté. Évidemment, quand on parle de vélo, qu'on en parle en bien, ça fait du bien à l'industrie. Donc c'est évidemment bon pour le sport et bon pour l'industrie qui est rattachée au secteur.
Et c'est un secteur qui se porte relativement bien, également pour de la simple mobilité, notamment dans les grands centres urbains. On voit bien qu'à Paris, le développement des offres type Vélib a permis aussi de développer le marché du vélo et d'acheter son propre vélo.
Ah, clairement, donc c'est un dispositif, de notre point de vue, qui a... aider la population à se remettre sur un vélo ou à s'y mettre pour la première fois et qui prend goût et effectivement peut être amené à acheter un vélo directement après. Et tous les plans de développement des pistes cyclables et le boom de l'électrique dynamisent énormément le marché en ce moment.
Au-delà du vélo, vous êtes lancé aussi sur le marché du running, qui est un marché également sur lequel Decathlon était extrêmement présent. Alors, avec la même stratégie, vous êtes plus pointu et vous adressez à des gens qui... le font véritablement d'un point de vue très très sportif. Là aussi, votre offre va être dopée par les produits Decathlon, c'est la même logique ?
Alors c'est peut-être moins évident parce que le marché du running est très concentré sur le nombre de marques. Il y a très peu de marques qui font la pluie et le beau temps. Decathlon fait évidemment partie de ce paysage-là, mais il y a très peu de marques très stratégique. Et puis l'équipement du runner, comme on l'appelle, est beaucoup plus limité que l'équipement d'un cycliste. Aujourd'hui, un cycliste, vous avez le vélo, toutes les pièces qui sont rattachées, l'électronique, l'équipement de la personne.
Pour le runner aussi, les montres connectées.
Oui, mais vous avez votre montre connectée, vos chaussures, votre short et votre maillot, vous êtes habillé pour l'année. Donc c'est vrai que voilà, le budget annuel consacré à la pratique est un peu plus court, mais évidemment, et toujours dans le sens des synergies et des carrefours d'audience qu'on pourra utiliser chez Decathlon, on a un vrai relais de développement pour cette partie-là aussi.
On dit toujours que les temps forts pour les salles de sport, c'est le mois de septembre. On s'inscrit à ce moment-là. Généralement, on y va trois fois et on abandonne. Est-ce qu'il y a aussi un effet rentrée, là, principalement pour le marché du running chez vous? On a couru un peu l'été avec les copains. On se dit, allez, ça y est, je m'y mets.
Oui, alors je pense qu'il est encore plus fort, aussi surprenant que cela puisse paraître, juste après les fêtes, au moment où il fait un peu froid, parce qu'on prend de bonnes résolutions après les 2 kilos qu'on a pris. Et puis, je pense que la raison est simple, c'est que c'est un sport qui est très accessible. En termes de coûts, c'est très peu onéreux et on peut en faire quand on veut où on veut. Donc, évidemment, il y a ce phénomène-là.
Merci d'être passé ce soir.
Merci
par les studios d'Europe 1. Gary Ancens, le fondateur donc d'Oltrix, qui est racheté en grande partie aujourd'hui par Decathlon. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Duteil et à demain. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et juste après, évidemment, la libre antenne. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Voici donc ce que vous allez découvrir à la une de vos quotidiens dès demain matin. Environnement, logement et ouragan, mais aussi politique, avec les échos qui nous expliquent ce bras de fer qui s'annonce musclé entre le Premier ministre Boris Johnson et le reste du Parlement. Il n'a plus la majorité. Libération nous raconte la rentrée d'Emmanuel Macron. Les dossiers chauds s'accumulent. Rentrée, éducation, écologie. Le chef de l'État se cherche des copains, nous dit Libé demain matin. Écologie, réchauffement climatique et la crainte de voir arriver ces super ouragans comme Dorian. Le quotidien CNews nous raconte pourquoi ils sont de plus en plus puissants et destructeurs. Et puis la vie de propriétaire est-elle possible à Paris? Le marché immobilier bat tous les records. Il est désormais à 5 chiffres le mètre carré. Et pourtant, la demande reste très forte. On lit le dossier dans 20 minutes. Le logement qui sera vraisemblablement l'une des clés des municipales en 2020. Et c'est le sujet que traite Le Figaro ce mercredi matin. La fracture de La République en marche et le conflit à venir entre Griveaux et Villani. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux. Vous y retrouvez demain dans les kiosques. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous savez que nous accueillons cette année pour votre libre antenne notre camarade Olivier Delacroix, à qui on souhaite la bienvenue et une bonne soirée. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Lénaïque. Merci et à tout à l'heure pour le flash de 23h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.